Radyoskopi. Radyoskopi.
Claude Lévi-Strauss.
Jacques Chancel.
Troisième jour, troisième heure, nous sommes au cœur, au milieu de cette semaine que nous vous consacrons. Hier, Claude Lévi-Strauss, vous avez parlé du voyage, de la parenté, du mariage, de l'écologie, de votre méthode de travail. J'ai cru comprendre que parfois il y avait un certain désordre, de votre nulle part, puisque vous le dites, vous n'êtes pas encore tout à fait fixé. Vous avez dit votre admiration pour Rousseau, votre maître, notre frère envers qui nous avons montré tant d'ingratitude. Vous avez salué Proust. Et j'ai cru comprendre que vous répétiez encore « je n'ai pas écrit de roman ». Alors, j'ai l'impression que c'est là comme une blessure. « Je n'ai pas écrit de roman ».
Oui, j'ai certain que j'aurais aimé être capable de m'exprimer dans plusieurs registres et que j'aurais donc aimé être capable d'écrire un roman ou plus encore d'être capable d'écrire une bonne pièce de théâtre.
Oui.
Mais enfin, c'est comme ça. Il faut connaître les limitations dont la nature vous a puni, si je puis dire, à la naissance. Et je ne suis capable de m'exprimer qu'à partir, disons, d'un matériau préexistant.
Vous n'êtes pas prêt pour le mensonge absolu, puisque le roman, c'est le mensonge absolu.
Non, mais je ne considère pas du tout que ce soit le mensonge absolu. Ça peut être, au contraire, une vérité beaucoup plus profonde que la vérité même de la vie. Il n'y a qu'à penser à Balzac et à Proust.
Mais j'ai l'impression que vous préférez votre chaire au Collège de France que votre fauteuil à l'Académie française.
Ça me semble extrêmement difficile à dire. Enfin, ma chaire au Collège de France, ça fait maintenant 21 ans que je l'occupe. Et donc, disons, c'est une très vieille habitude et celle de l'Académie est plus récente. Mais ça ne répond pas du tout aux mêmes fonctions, aux mêmes finalités. La chaire du Collège de France, c'est l'exercice d'un métier. Et le fauteuil à l'Académie française, disons, c'est le maintien d'une tradition.
J'ai compris que vous souhaitiez que les hommes puissent se réunir d'une manière tranquille. Alors accordez-vous un peu de supériorité aux hommes.
Oh non, ça absolument pas.
Ah, quand même pas.
Non, absolument pas. Et je dirais que, enfin, dans le laboratoire que je dirige, je pense que les chercheurs femmes l'emportent en nombre sur les chercheurs hommes. Et je n'y vois aucun inconvénient, aucun obstacle.
Claude Lévi-Strauss, vous êtes passionné pour des mondes lointains et vous êtes interrogé tout au long de votre vie. Alors comment l'ethnographe peut-il se tirer de la contradiction qui résulte des circonstances de son choix? Car c'est vrai, et nous l'avons déjà dit au cours des deux premières heures, l'ethnographe a sous les yeux une société, la sienne. Alors pourquoi décide-t-il de la dédaigner, de ne pas accorder à celle-là la patience et la dévotion qu'il va mettre à la disposition de ces déchets d'humanité, comme on dit, c'est-à-dire de ces peuples lointains, peu connus, et que l'on explore?
Je crois que nous avons déjà un peu effleuré cette question. Mais elle est importante, et si vous voulez y revenir de façon un peu plus concrète, bien, je vous renverrai à cette enquête dans un village de Bourgogne du Nord, dont une équipe du laboratoire que je dirige, et je m'empresse de lire, une équipe entièrement constituée de femmes.
Très bien.
N'est-ce pas? Eh bien, a mis 10 ans pour essayer de débrouiller un petit peu ce que c'était qu'un village de 400 habitants. Il en est sorti plusieurs livres, et si vous en prenez deux récents, ce merveilleux livre d'Yvonne Verdier qui s'appelle « Façon de vivre, façon de faire », ou celui non moins excellent de Françoise Zanaben qui s'appelle « La mémoire longue ». Bien, ce que vous voyez dans ces deux livres, c'est que des choses, des détails à quoi nous n'aurions prêté aucune attention jouent un rôle tout à fait fondamental, même dans la vie d'un village français contemporain. Dans le livre d'Yvonne Verdier, ce rôle véritablement rituel, nous avons déjà parlé du rituel, oui, mais ce rôle véritablement rituel qui incombe à trois fonctions, ou qui incombait jusqu'à une date relativement récente, à trois types de femmes. Enfin, la couturière, qui ne se contente pas de coudre des vêtements, mais qui joue tout un rôle de préparation et presque d'initiation des jeunes filles à la vie sexuelle et à la vie conjugale. La cuisinière, qui, elle, est préposée à la célébration des noces. Et puis, ce personnage dont, véritablement, nous ne soupçonnions ni l'existence ni l'importance, qu'elle appelle la femme qui aide et qui, elle, est préposée au rite de la naissance et au rite de l'enterrement. Ou encore, dans le livre de Françoise Zonabend, cette existence, toujours actuelle d'ailleurs, et je la constate tous les jours où je suis à la campagne, dans le village pas très éloigné de celui qui a été l'objet de l'étude, où j'ai ma maison, à côté d'une économie marchande, qui est celle du gros cultivateur, bien une économie qui est entièrement fondée, je ne dirais même pas sur l'échange, mais sur des dons et des contre-dons. Parce qu'il y a des choses qui ne se vendent pas, il y a des choses qui se donnent et qui appelleront à plus ou moins longue échéance, mais pas trop vite, le retour d'autres biens du même type. Or, ce qu'elle montre très bien, c'est que ces produits qui sont réservés aux dons, ce ne sont pas exactement les mêmes selon qu'il s'agit de dons entre parents, de dons entre voisins ou de dons qui circulent de façon plus large à l'échelle du village. Bien, ou bien encore, ce véritable rite ou cette coutume qu'elle décrit de l'embuscade, c'est-à-dire de la décision prise de temps à autre par tous les hommes adultes et mariés, seulement les hommes mariés du village, de se constituer en bande et de faire irruption chez l'un d'eux, en réveillant la femme, en la tirant brutalement de son lit, en l'obligeant à confectionner un repas improvisé, une gigantesque omelette, et ça jouait un très grand rôle dans la vie du village. Bon, tout ça, ce sont des choses que vraiment, enfin, nous ne voyons pas. Or, ce qui est extraordinairement important, c'est que c'est au niveau de ces racines très profondes que les sociétés, aussi éloignées qu'elles soient, s'entremêlent, que si nous voulons être capables de comparer notre société à des sociétés différentes, eh bien, ça n'est pas en nous plaçant du point de vue de l'économie de marché ou du marché international que nous devons nous situer. Mais que quand nous atteignons ces racines assez profondes, alors nous voyons que ces racines s'en mêlent avec d'autres racines et qu'il y a là une sorte de fond commun sur lequel toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, se développent et continuent d'exister.
Il faut donc savoir l'importance de la couturière et de la cuisinière. On ne l'a peut-être pas soupçonné tout à fait.
Mais oui, il faut savoir ça. Il faut savoir l'importance de beaucoup d'autres petits faits, ou encore celui-ci mis en lumière dans cette enquête et exposé dans le livre de Françoise Zonabend, La mémoire longue, que le mariage des cousins, dont on pouvait supposer qu'il avait été complètement éliminé par le développement des moyens de communication, le brassage des populations, le fait que même dans un village, il y a des gens du dehors qui arrivent, eh bien, au contraire, le développement des moyens de communication le remet en honneur. Pourquoi ? Parce que, grâce à l'automobile, on reprend contact avec des collatéraux éloignés qui s'étaient établis à distance, dont on ne soupçonnait même plus l'existence, avec qui on n'avait plus de rapport et avec lesquels les liens se renouent. Ben, nous parlions, je ne sais pas si c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois, de l'importance du mariage des cousins dans un grand nombre de sociétés. il joue également un rôle dans le nôtre, et ce rôle, nous ne pouvons l'observer, nous ne pouvons le repérer que par des études, d'une part extrêmement fines, lentes et minutieuses, et d'autre part, des études qui sont en quelque sorte éclairées par l'expérience que nous pouvons avoir de sociétés très différentes de la nôtre, sans quoi nous ne verrions pas ce qui est important dans la nôtre.
Et ce qui est bien aussi, Claude Lévi-Strauss, c'est que cette fois-ci, d'ailleurs depuis quelques années, on s'intéresse à ce qui est proche et pas seulement à ce qui est lointain. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'enquêtes sur notre propre sol, et votre laboratoire y travaille.
Ce qu'on appelle l'ethnologie française, oui, n'est-ce pas, n'a véritablement démarré dans notre pays qui a une quinzaine d'années. Je ne dis pas que ça n'existait pas auparavant. Il y a eu de très grands folkloristes au XIXe siècle. Il suffit de penser à Saint-Yves, Sébillot et autres. Mais c'était des gens qui essayaient plutôt de recueillir des souvenirs d'un lointain passé, tels que la tradition orale les avait préservés, beaucoup plus tôt qu'une réalité toujours vivante et qui contient des éléments qui nous mettent de plein pied avec des sociétés très différentes.
Êtes-vous encore d'accord avec ce que vous disiez il y a quelques années, volontiers subversif parmi les siens et en rébellion contre les usages traditionnels? L'ethnographe paraît respectueux jusqu'au conservatisme dès que la société envisagée se trouve être différente de la sienne.
Oui, il y a là un paradoxe très, très frappant et qui est, je dirais volontiers, consubstantiel à l'ethnologie elle-même. Parce que si vous y réfléchissez un instant, vous voyez que c'est de cette façon que la réflexion ethnologique s'est introduite dans la pensée contemporaine. Qu'au fond, les données sur des sociétés très lointaines ont été d'abord utilisées pour critiquer les usages de notre propre société. Vous connaissez, dans les essais de Montaigne, le célèbre chapitre des cannibales, n'est-ce pas, où il montre, après avoir rencontré quelques Indiens du Brésil revenus sur un bateau français et qu'il avait abordé, je crois, sur les quais de Rouen, si mes souvenirs sont exacts, bien qu'immédiatement ce qu'il fait, c'est de comparer les coutumes que ces Indiens décrivent à travers ces interprètes normands qui étaient établis au Brésil dès les toutes premières années du XVIe siècle et qui les accompagnaient dans ce voyage, et puis les usages de notre propre société. Alors le paradoxe, il est là. C'est que d'une part, si nous sommes ethnologues, eh bien, les usages aussi bizarres, étranges ou même scandaleux et parfois révoltants de notre point de vue, n'est-ce pas, de civilisations différentes, notre premier devoir, c'est de les étudier avec scrupule et donc de les respecter. Mais que, immédiatement, la différence, l'écart qui existe entre ces usages exotiques et nos propres usages, nous les retournons, si je puis dire, sur nos usages, et nous nous en servons pour les relativiser. Et je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'émouvoir de ce contraste, qu'il y ait lieu de s'émouvoir de ce paradoxe. Au fond, ce sont les deux aspects solidaires d'une seule et même attitude intellectuelle.
Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, vous parlez souvent des tribus indiennes que vous avez côtoyées en Amérique du Sud. Je voudrais savoir si à un certain moment vous êtes considéré comme un intrus. Parce que c'est vrai que vous avez rencontré des hommes qui étaient parfois malades, et vous dites même que c'était l'époque où les maladies introduites par l'homme blanc les avaient déjà décimées, ces populations.
Déjà depuis très longtemps.
Et vous êtes de ces hommes blancs aussi, peut-être.
Mais bien sûr, je me suis toujours considéré comme un intrus. Oui. Seulement, n'est-ce pas, je sais que il est à la mode aujourd'hui, en tout cas dans certains milieux, de dire que l'ethnographie est condamnable et que l'ethnographe est un homme détestable parce que quand il fait irruption dans des sociétés comme ça différentes de la sienne, il y introduit le désordre, la confusion, enfin des usages différents et autres. À ça, je vous répondrai que on pourrait compter sur les doigts des deux mains probablement les cas où des ethnologues ont été les premiers à pénétrer dans des civilisations qui étaient restées intactes et à l'abri de tout contact avec la civilisation. Et qu'en fait, l'ethnologue n'est jamais arrivé sur le terrain qu'à la suite, et parfois, malheureusement, dans les bagages de l'administrateur colonial, du militaire ou du missionnaire. Et que les désordres que nous pouvons apporter à notre échelle infiniment réduite, quand nous sommes un ou deux malheureux bougres qui traînons pendant quelques mois dans une société différente, sont véritablement totalement insignifiants par rapport à ces désordres infiniment plus graves et définitifs qui sont apportés par des représentants de ces énormes machines que sont des intérêts économiques, des intérêts politiques ou des grandes religions constituées.
Mais avouez aussi que si on n'y allait pas, si véritablement on ne s'installait pas dans leur domaine, on pourrait peut-être manifester une belle indifférence. Alors y aller, ne pas y aller. Faut-il laisser tous ces peuples dans ce que certains ont appelé, bien imprudemment, une certaine sauvagerie ?
Si vous parlez de l'ethnologue, je dirais que son premier devoir est d'y aller. Parce que s'il n'y allait pas...
Il ne ferait pas son travail.
Mais c'est pas qu'il ne ferait pas son travail, c'est que... des vérités essentielles à la connaissance de l'homme et des vérités essentielles à ses peuples mêmes seraient définitivement perdues. N'oubliez pas que, même à l'heure actuelle, aux États-Unis, où on s'imagine que les Indiens parqués dans des réserves n'ont plus qu'un attachement folklorique, ou plutôt qu'un intérêt folklorique dans leurs anciennes coutumes, et que leurs danses et leurs rituels, ça sert uniquement à distraire les touristes, ce qui n'est absolument pas vrai. Si un ethnologue travaille actuellement avec un informateur, il lui arrivera, et j'en ai fait moi-même l'expérience au Canada, questionnant un homme de 40 ou 50 ans, le voir perplexe et dire « Attendez, je vais aller consulter tel ouvrage paru à la fin du 19e siècle qui se trouve dans ma bibliothèque et vérifier ce que mon grand-père ou mon arrière-grand-père a dit à tel ethnologue qui était venu à cette époque dans la région. Nous sauvons un patrimoine spirituel et tout un trésor de coutumes, de croyances et également de savoir positif sur le monde, nous le sauvons pour le bénéfice de ces peuples eux-mêmes qui, de plus en plus, éprouveront le besoin de se rattacher à leurs racines.
Il y a combien d'ethnologues en France ? Ils sont nombreux ? C'est une profession d'avenir ?
C'est extrêmement difficile à dire parce qu'il y a, disons, toute une frange et surtout comme le nombre de postes disponibles est très réduit par rapport à ceux qui ont fait des études et qui pourraient prétendre à les occuper. Bon, ils traînent tout autour des universités ou du CNRS des gens qui sont des ethnologues, qui ont vocation d'être des ethnologues, mais qui sont obligés de gagner leur vie à d'autres tâches. Mais disons que c'est de l'ordre de 200 à 300.
Quelles études va-t-il faire ? C'est très précis ? Il y a une école d'ethnologie ?
Il y a plusieurs universités où existent des départements d'ethnologie. Il y a des chaires ethnologiques au Collège de France. Il y en a plus nombreuses à l'École des hautes études en sciences sociales, il y en a à l'École pratique des hautes études, il y en a à l'Institut national des langues orientales, il y a un grand centre ethnologique à l'Université de Paris 10 Nanterre, il y en a quelques-uns en province. Il y a donc un certain nombre d'endroits où on peut faire des études d'ethnologie et préparer ce qui s'appelle, je ne dirais pas, un premier cycle, parce que l'ethnologie en France ne commence qu'au deuxième cycle, mais faire une maîtrise d'ethnologie, un doctorat de troisième cycle en ethnologie, et un doctorat d'État en ethnologie.
Et puis, il y a aussi tous les ethnologues amateurs. Je pense à tous ceux qui sont sur le terrain, dans nos campagnes, et qui essaient d'en savoir un peu plus sur les origines et sur les espaces.
Pour la France, il y en a des quantités.
Vous les reconnaissez, cela ?
Oui, et nous sommes même extraordinairement frappés du trésor de bonne volonté qui existe à l'échelon local. Et pas songer qu'il existe en France, à l'heure actuelle, environ 400 musées d'ethnologie française, dont quelques-uns sont des musées d'État, mais dont beaucoup sont des créations locales. Et je pense par exemple à Chanlit, à la frontière de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, c'est un endroit que je connais bien, où il y a un étonnant musée qui a été entièrement constitué par un ancien berger de la région et qui s'est attaché depuis des années et des années à ramasser tout ce qui pouvait témoigner des genres de vie traditionnels. Et il y en a des quantités en France comme ça.
Et puis il faut se méfier aussi de l'exotisme. Parfois on va quelque part, on s'extasie même un peu trop, parce qu'on considère véritablement que c'est beau de retrouver des ignorants ou de retrouver des misérables. Et par exemple, lorsque vous couriez vos aventures là-bas en Amérique du Sud, vous rencontriez des peuples et vous disiez que parfois ils étaient misérables, et vous écriviez à ce moment-là, parlant de ces peuples, « Cette misère est pourtant animée de chuchotements et de rires. Les couples s'étreignent comme dans la nostalgie d'une unité perdue. Les caresses ne s'interrompent pas au passage de l'étranger. » On devine chez tous une immense gentillesse, une profonde insouciance, une naïve et charmante, une charmante satisfaction animale, et rassemblant ces sentiments divers, quelque chose comme l'expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. Vous avez l'air de vous étonner. Vous dites, je suis arrivé là, je vois des populations misérables, mais ce sont quand même des hommes.
Je ne dis pas exactement ça.
Mais c'est ce qu'on ressent peut-être.
Non, je ne dis pas exactement ça. Je dis, moi, ethnologue, je ne peux pas oublier, parce que c'est mon métier, qu'au fond, je ne vais pas sur ce que nous appelons dans notre jargon le terrain pour étudier des hommes. J'y vais pour étudier des croyances, des coutumes et des institutions. Et entre les croyances, les coutumes et les institutions, ces sécrétions de l'humanité et les hommes eux-mêmes qui les ont produites, il y a une différence aussi grande, disons, qu'entre la coquille d'un coquillage et puis le mollusque qu'il a fabriqué. Ce sont véritablement deux réalités de nature différente. Or, je me suis trouvé dans une expérience très singulière chez ces Indiens dont il s'agit, c'est-à-dire ces Nambikwara qui ont une histoire terrible et qui continue et qui est encore plus terrible qu'elle n'était à l'époque où je me trouver parmi eux, c'est que véritablement, dans ces petites bandes déjà décimées, n'est-ce pas, les Nambikwara, il y a un siècle, devait être 10 000 ou 20 000, à l'époque, il y a un demi-siècle, ou presque, où je me trouvais parmi eux, il n'était plus probablement que 2 000. Et à l'heure actuelle, ils ne sont plus que quelques centaines. Mais c'était des gens chez qui on avait l'impression que, enfin, tout ce grand appareil institutionnel que les ethnologues vont chercher dans des sociétés différentes, eh bien qu'il était réduit à sa plus simple expression. Et que ce qu'on voyait alors surgir, c'était beaucoup plutôt moins la différence de croyances, de coutumes ou de règles sociales, ou de techniques, parce que tout ça a été réduit à sa plus simple expression, qu'un certain fond d'humanité commune entre eux et commune entre nous.
Cette phrase de vous nous paraît essentielle, Claude Lévi-Strauss. Le problème ultime des sciences de l'homme consistera un jour à ramener la pensée à la vie. Que voulez-vous dire très précisément ?
Je ne serais pas du tout d'accord là-dessus avec un grand nombre de mes collègues et donc je ne veux pas affirmer ça. Oui,
c'est ce que vous dites qui est la vérité. Bon, c'est vous qui êtes là.
Affirmer ça comme une vérité. Mais, si vous voulez, il me semble qu'une des grandes erreurs scientifiques d'une part et un des grands péchés moraux d'autre part, parce que je ne pense pas que s'agissant de l'homme, on peut dissocier les deux choses et les deux aspects, a été dans la ligne de ce qu'on appelait le dualisme philosophique, à penser que d'un côté il y avait l'humanité et que de l'autre côté il y a tout le reste. Il y avait Descartes parlé des animaux machines, c'est-à-dire que pour lui la véritable frontière c'était entre l'homme qui pense et qui est seul à penser dans la création, et puis le règne de la matière, où véritablement la question de savoir s'il s'agit de matière animée ou de matière inanimée est quelque chose de secondaire, parce qu'on peut passer par des gradations insensibles, ou parce qu'on pourrait passer par des gradations insensibles de l'une à l'autre. Et ça me paraît d'abord faux, et ça me paraît ensuite profondément dangereux, parce que, enfin, les expériences passablement atroces dont l'humanité a fait l'expérience au cours de ces dernières décennies montrent que le rempart, si je puis dire, qui abrite l'homme de lui-même est un rempart très fragile et que nous savons que la tentation est très forte, très grande pour des fractions quelconques de l'humanité, que ce fût à l'époque coloniale ou que ce fût plus récemment avec les camps de concentration. Bon, que la tentation est très forte pour une petite fraction de l'humanité de rejeter l'autre fraction ou une autre fraction de l'autre côté de la barrière. Et que si l'homme veut se mettre à l'abri de ce danger, bien il n'y a pour lui qu'un moyen, c'est de reculer le rempart, de reculer la frontière, de ne pas le mettre tout près de lui, mais de bâtir, si je puis dire, une série de glacis en termes de forteresse ou de fortification. Et que l'homme ne se respectera véritablement jamais lui-même que s'il considère qu'il est respectable, non pas tant par ce privilège qu'il s'arroge d'être le seul être pensant sur la Terre et dans l'univers, mais par cette condition qu'il partage avec beaucoup d'autres êtres et qui est d'être un être vivant. Et que c'est seulement à condition de respecter la vie sous toutes ses formes, et donc de ne pas la désolidariser de la pensée, que la pensée sera véritablement protégée.
On a déposé un jour les droits de l'homme. Vous pensez qu'il faudrait peut-être prolonger aujourd'hui ce très beau moment et inventer les devoirs de l'homme, et d'une manière très 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 officielle?
Oui, je le crois, j'en suis convaincu.
Vous pourriez déposer des statuts à ce sujet? Vous avez préparé tout cela?
Non. Tout ça, c'est pas exactement mon métier, si vous voulez. Ce sont des genres de rêveries auxquelles on se trouve amené, soit spontanément, soit parce qu'on fait pression sur vous du dehors pour qu'on les formule.
Quels sont les devoirs de l'homme, à votre avis? Le devoir de respecter, d'abord?
Je viens de le dire. C'est de respecter la vie sous toutes ses formes. Et enfin, je ne plaide pas par là une humanité qui soit généralement ou universellement végétarienne. Je sais bien que nous avons besoin pour nous nourrir de consommer des végétaux et même de la viande animale. Mais je crois qu'il faut là faire une distinction entre des individus que les fatalités de notre condition nous amènent à détruire et les espèces qui, elles, doivent être rigoureusement et radicalement protégées. Je crois que les droits véritablement de l'espèce humaine s'arrêtent devant les droits d'autres espèces. Et que c'est au moment où l'action de l'homme tend à faire disparaître une espèce, parce que qu'est-ce que c'est qu'une espèce vivante ? C'est une synthèse incroyablement complexe et qui a mis des centaines de millénaires ou des millions d'années à se constituer d'un certain nombre de propriétés du monde naturel qui, sous cette forme, sont totalement irremplaçables. Je veux dire irremplaçables dans la chaîne des êtres vivants où chacun remplit sa fonction, et irremplaçables aussi d'un point de vue esthétique parce que chacune constitue une sorte de chef-d'œuvre à une beauté particulière et que l'existence d'une espèce, c'est exactement aussi important que l'existence de l'œuvre d'un grand peintre que pourtant nous employons tous nos efforts à protéger dans des musées, alors que quand il s'agit d'une espèce vivante, nous la traitons avec une désinvolture et un mépris et même une ignorance tout à fait incroyable. Eh bien, cette richesse de la création, qui échappe complètement à notre pouvoir, que nous serions évidemment incapables de restituer ou de reconstituer, même avec toutes les manipulations génétiques, à l'échelle de la durée qu'on peut prévoir de l'espèce humaine. Notre premier devoir, c'est de la maintenir telle qu'elle, intacte pour ceux qui nous succéderont.
Mais Claude Lévi-Strauss, tant que nous mangerons de la viande, nous ne respecterons pas tellement les espèces vivantes. C'est même impossible.
Je crois pas. Je crois que la distinction que je viens de faire est tout à fait nette. Détruire des individus n'implique pas la destruction d'une espèce. Et que c'est l'espèce elle-même que nous devons considérer comme dépositaire de ses droits. Et qu'en effet, j'ai eu au Japon, je me rappelle, des discussions assez épiques avec des collègues japonais, et de façon assez curieuse, parce qu'il s'agissait d'un colloque qui a eu lieu il y a 2 ans à Osaka, et où on voulait confronter la vision du Japon de collègues étrangers et de collègues du CRU, enfin nous étions 3 étrangers, 2 Américains du Nord et moi-même. Et il s'agissait, moi-même, on m'avait donné comme tâche, comme pinsum, de faire un exposé en anglais, Inscrutable Japan, n'est-ce pas, le Japon insondable. Et au fond, le colloque s'est très bien déroulé. Nous avons eu le sentiment que nous arrivions parfaitement à nous connaître, à nous comprendre et que nous n'étions pas si inscrutables les uns pour les autres qu'on avait bien voulu le supposer. Et puis tout s'est terminé et il y a eu un déjeuner d'adieu. Et alors au cours de ce déjeuner d'adieu, est venu dans la conversation, parce qu'il y avait eu un incident d'un jeune Américain qui avait déchiré les filets d'un pêcheur pour libérer des marsouins, et c'était un Américain, il avait été arrêté par la police japonaise, et naturellement mes collègues américains en étaient assez émus. Et alors là, nous nous sommes brusquement aperçus que nous ne pouvions plus du tout communiquer, et que quand il s'agissait de la préservation des baleines, alors là, véritablement, le Japon devenait insondable par rapport à nos perspectives occidentales. Bon, eh bien, là, voilà un problème. Je n'ignore pas que le ravitaillement du Japon est un très gros problème, que les ressources côtières ne sont plus suffisantes, que les flottes japonaises sont obligées d'aller très loin sur les mers pour nourrir 120 millions de personnes. Seulement, le véritable problème moral se pose au moment où ces besoins contestables d'un groupe humain ou de l'humanité en général menacent l'existence d'une espèce. N'est-ce pas ? Il ne s'agit pas, comme au XVIe, ou au XVIIe, ou au XVIIIe, ou même encore au XIXe siècle, de faire un prélèvement sur une espèce et un prélèvement qui va se reconstituer par le mécanisme normal de la reproduction. Il s'agit de l'extermination d'une espèce, et cette extermination est déjà, si je puis dire, actuelle, pour autant que dans la mesure où dans le passé, les chasseurs de baleines ont toujours choisi les plus grosses, n'est-ce pas, je simplifie un peu, ils ont déjà éliminé les gènes qui commandent la grande taille. Et que donc, même s'il existe encore des baleines,
elles sont petites.
Elles sont de plus en plus, de plus en plus petites. C'est donc véritablement là un problème fondamental qui se pose.
Mais Claude Lévi-Strauss, par exemple, en ce moment, on se bat beaucoup pour les bébés phoques. Vous pensez que dans des milliers d'années, on pourra se battre de la même manière pour les bébés hommes? Non, quand même pas.
Oh, je dirais...
On n'y arrivera pas.
Je dirais presque, hélas, que parmi toutes les espèces vivantes, probablement l'espèce humaine est celle qui est la moins menacée de disparition.
Pourquoi dites-vous hélas ?
Ben, parce que c'est cette prolifération de l'espèce humaine, et nous savons avec quel rythme l'expansion démographique se produit. Enfin, je sais qu'elle a tendance à se ralentir depuis quelques années. Mais enfin, qu'elle est déjà considérable et qu'elle est toujours sur sa lancée, si je puis dire. Eh bien, c'est cette prolifération qui entraîne, depuis des siècles, la destruction d'autres espèces. Et que par conséquent, le problème actuel, c'est pas que d'autres espèces vivantes menacent l'espèce humaine, c'est que l'espèce humaine en menace d'autres.
Plus il y aura d'hommes, moins il y aura d'espèces vivantes.
Ben, ça, c'est quelque chose à quoi nous assistons depuis fort longtemps.
Oui, et on pourrait même dire que les choses empirent, non ?
Mais, bien sûr qu'elles empirent. Bien sûr que... Il est certain que... Nous nous dirigeons, enfin si on veut extrapoler à longue échéance, vers un monde où il n'y aura plus d'une part que l'homme et d'autre part les espèces végétales et animales qu'il aura sélectionnées et protégées pour ses propres besoins et où tout le reste aura disparu.
C'est-à-dire que dans un certain nombre d'années, il aura mis des espèces vivantes presque dans autant de zoos. C'est-à-dire que toutes les espèces vivantes se seront totalement prisonnières. Il n'y aura plus de liberté pour ceux qui ne sont pas les hommes.
Je crois que dans une très large mesure, c'est déjà à ça que nous assistons.
Donc c'est déjà condamné, tout est joué.
Non, je ne dirais pas. Écoutez, tout n'est jamais joué. Parce que, comme on l'a dit déjà avant moi, quand on dit deux choses l'une, c'est toujours une troisième qui se produit. Et... Je suis trop convaincu de la contingence profonde de l'histoire pour faire des prévisions. Je dirais simplement que ce qui se passe en ce moment est dangereux et qu'il faut essayer de réagir.
Mais quand même, il y a dans votre œuvre des petites phrases optimistes. Rien n'est joué, nous pouvons tout reprendre et ce qui fut fait et manqué peut être refait de toute manière.
Oui, remarquez que ça, c'est une phrase que vous tirez d'un livre paru en 1955.
Oui, mais c'est écrit.
C'est écrit.
Je veux y croire.
C'est écrit, mais j'ai vécu et j'ai vieilli depuis, et je dois dire que je suis beaucoup moins optimiste que je ne l'étais encore relativement à cette époque.
Alors, par exemple, vous ne reconnaissez plus cette phrase. L'âge d'or qu'une aveugle superstition avait placé derrière ou devant nous est en nous. L'âge d'or. On doit croire à l'âge d'or ?
Non, ça c'est une phrase que je ne répudierai pas, parce que du fait même que nous pouvons en ce moment, entre nous deux, en face l'un de l'autre, discuter de ces problèmes, eh bien, montre que l'humanité est encore capable, à travers ces infimes spécimens que nous représentons, mais il y en a heureusement beaucoup d'autres, de penser, de concevoir ces problèmes et d'apercevoir les périls. Donc, nous ne sommes pas une humanité définitivement viciée, corrompue et perdue.
Alors, on parlait des animaux tout à l'heure, de toutes ces espèces vivantes, et il est vrai que dans beaucoup de pays, vous parliez des baleines, c'est vrai qu'il y en avait des grandes, maintenant elles sont de plus en plus petites. Dans certains pays d'Afrique, bientôt il n'y aura même plus d'éléphants, alors qu'ils étaient des millions, autrefois disons des centaines de milliers. On rencontre beaucoup d'animaux en cage, mais pas seulement des animaux, parfois des hommes aussi dans certains pays, donc tout va mal. Est-ce normal ? On ne pouvait pas faire autrement.
Et je ne sais pas si Enfin, c'est très utile de se demander si on aurait pu faire autrement. Nous sommes tout à fait incapables, ou bien alors ce serait beaucoup trop facile d'imaginer d'autres courses que l'espèce humaine aurait pu suivre au cours de sa très longue histoire. En tout cas, ce qui a été fait et qui a entraîné de très très grands résultats, parce que je ne suis pas du tout de ceux qui méprisent la civilisation occidentale, la civilisation industrielle, pas du tout. Je reconnais qu'elle a accompli dans certains domaines des progrès immenses et que véritablement il aurait été impossible de soupçonner il y a quelques siècles ou il y a même quelques décennies. Je dis simplement que ces immenses progrès qui ont été accomplis dans certains domaines ont été payés d'un prix très lourd dans d'autres domaines. Et qu'il ne sert absolument à rien de se demander si ces avantages auraient pu être obtenus à moindre coût. Je n'en sais rien et personne probablement n'en sait rien. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que une tâche très noble et très urgente pour la civilisation occidentale serait, au lieu, disons, de continuer dans cette double lancée, la positive et la négative, c'est-à-dire d'accumuler les progrès là où ils ont déjà accumulé et de subir d'autres dommages encore plus graves là où on en a déjà subi, eh bien, ce serait quelque chose de très grand, de très noble et de très important de se dire, dorénavant, nous allons essentiellement chercher à utiliser ces progrès déjà accomplis et ceux que nous pouvons encore accomplir, à amoindrir les dommages déjà causés et, dans la mesure du possible, à les réparer. Autrement dit, je ne pense pas qu'entre le souci, disons pour simplifier, écologique et le progrès de la science et de la technique, il y ait une contradiction. Je crois que si nous pouvons à l'heure actuelle, accomplir un progrès dans un plus grand respect, dans une meilleure gestion des ressources naturelles, bien nous avons besoin de tout l'effort et de tous les progrès accomplis par la science pour y parvenir.
Nous avons quand même condamné notre avenir et je pourrais peut-être dire que c'est une fatalité, car le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui.
Oui, mais ça, alors,
donc la boucle est bouclée,
non.
Ou elle va être bouclée, non?
Écoutez, ça se produit à une très grande échelle. Vous savez que le passé de l'humanité, il recule à toute vitesse. Et je dirais presque que chaque année de recherche paléontologique apporte 500 000 ans ou 1 million de plus à la première origine des ancêtres de l'homme. Autrefois, on croyait que c'était de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années. Ensuite, on sait que c'est de quelques centaines. Maintenant, on en est à quelques millions. Et le futur de l'humanité, ben, je n'essayerai pas de le chiffrer. Nous n'en avons bien sûr aucune idée. Mais enfin, ce sont des ordres de grandeur qui ne sont pas à notre échelle.
Mais vous n'avez pas ressenti, vous, le barrage de la langue, parce que j'ai cru comprendre que vous auriez pu parler beaucoup d'autres dialectes.
Il y a l'anglais. Absolument pas, absolument
vous
pas.
Vous avez l'anglais quand même.
Je suis un détestable linguiste.
Bon,
détestable. Je n'ai aucun don pour les langues. Et bon, si j'arrive à m'exprimer en anglais, même à l'occasion à écrire en anglais, c'est après tout parce que j'ai vécu plusieurs années aux États-Unis et que j'ai été amené à me servir de cette langue. Mais tous les efforts que j'ai faits dans d'autres directions, je n'ai jamais pu, dans les populations où je me trouvais, qu'arriver à baragouiner une sorte de sabir. Et malgré tout l'intérêt que j'ai pris ces dernières années pour le Japon et la profonde sympathie et l'admiration que ce pays m'inspire et le désir que j'ai d'arriver à nouer un contact un peu plus intime avec lui, ben, depuis 3 ans, je crois que j'ai passé toutes mes vacances à faire, en tout cas 2 heures de japonais tous les jours pendant mes vacances.
Sans succès.
C'est-à-dire que j'oublie au fur et à mesure ce que je crois avoir appris.
Avez-vous le sentiment
que... Ça, c'est une question d'âge aussi. Je suis plus à l'âge où on peut apprendre des langues.
Vous savez, le japonais, c'est quand même très particulier, ou le chinois, ou même, l'arabe.
Mais non, toutes les langues sont très particulières.
Mais avez-vous le sentiment, Claude Lévi-Strauss, que toutes ces recherches, toutes ces aventures ont embelli votre vie?
Bien sûr.
Car vous avez plus appris des autres que de vous-même.
Je ne crois pas qu'on apprenne jamais beaucoup de soi-même. En tout cas, moi, je n'apprends rien du tout de moi-même parce que, enfin, pour des raisons, je dirais presque caractérielles, je n'ai pas le sentiment de l'identité personnelle. Mon passé, je le détruis, je l'oublie au fur et à mesure. Quand on vient m'interroger sur certains événements auxquels j'ai été mêlé parce qu'un tel fait une thèse sur telle ou telle période et que j'ai connu des gens ou joué un rôle dans cette période, j'essaye de raconter ça du mieux que je peux. Et puis mon interlocuteur, qui a 25 ans, me dit non, c'est faux parce que voilà les dates et ainsi de suite. Je reconstruis mon passé beaucoup plutôt que je ne m'en souviens. Mais... Cela dit, il est bien certain que toutes ces expériences qui sont devenues à l'heure actuelle des expériences rares et que j'ai pu faire au cours de mon existence, ce sont elles qui m'ont formé, ce sont elles qui m'ont fait.
Quelles sont vos certitudes aujourd'hui? Peut-on avoir des certitudes ou doit-on toujours douter?
Vous savez, douter, c'est encore une certaine façon d'avoir des certitudes, parce que c'est-à-dire qu'on est certain de devoir douter. Je suis très prudent dans les certitudes, parce que chaque fois qu'au cours de mon existence, j'ai été sûr que les choses allaient se passer de telle ou telle façon, ou que telle solution était meilleure qu'une autre, la réalité m'a toujours démenti. Alors, j'ai le sentiment que j'ai un cerveau qui est fait pour... penser dans certaines conditions, certains types de phénomènes, mais pas du tout n'importe lesquels.
Pendant le temps qu'il vous reste à vivre, dites-vous, je serais ravi de changer de métier. Alors on a peu parlé de votre côté bricoleur.
Ça, très certainement.
Et c'est vrai que le travail manuel permet de comprendre le monde.
Enfin, c'est un des moyens d'accès. Je ne dirais pas que c'est lui qui permet de comprendre le monde, mais... sans contact manuel avec le monde, je crois qu'on n'en a qu'une connaissance mutilée. Qu'il existe tout un monde, celui que j'ai essayé de définir comme le monde de la pensée sauvage, qui est fait de données sensibles, qui est fait d'odeurs, de saveurs, de couleurs, de textures, de matières, de résistances, et que ça... une certaine familiarité avec ce monde est tout à fait indispensable pour essayer de le comprendre.
Votre famille a parfois participé à vos travaux? Je veux dire, vous avez tenu au courant votre femme? Vous avez des enfants?
J'ai 2 fils, de 2 mariages différents d'ailleurs, et j'ai été marié plusieurs fois. Ma première femme m'accompagnait dans mes expéditions. C'était l'époque du Brésil.
Oui.
Ma femme actuelle relie, je dois dire avec sévérité, une sévérité essentielle, tous mes manuscrits et toutes mes épreuves.
C'est une nécessité. Vous avez besoin d'être accompagné de ce côté-là. Vous ne pourriez pas vivre avec quelqu'un qui bouderait vos travaux, qui ne s'intéresserait pas à ce que vous faites.
Non, ça, je crois que ce serait tout à fait impossible. Et puis, vous m'avez taxé à plusieurs reprises, et injustement, me semble-t-il, de vanité, alors que j'ai une extrême...
Non, avec un point d'interrogation.
Non, avec j'ai au contraire une extrême défiance vis-à-vis de moi-même. Et par conséquent, quand je fais quelque chose, j'ai besoin tout de suite que ce soit contrôlé par d'autres.
Les années qui passent vous ont sans doute changé et peut-être êtes-vous même plus tolérant. On devient plus tolérant en vieillissant. Quoique la tolérance est parfois dangereuse.
Oui, on devient certainement plus tolérant ou bien on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne s'imagine quand on est jeune et que, enfin, quand on s'occupe de l'homme et de ce qu'on appelle les sciences de l'homme, on doit se rendre compte qu'on n'est pas dans un domaine où règnent les idées claires, que c'est au contraire le domaine des idées confuses, que c'est donc pas en faisant de grands plans rationnels qu'on peut essayer de comprendre ou de changer quoi que ce soit, que l'humanité est pour une large part, et je pense pour une part tout à fait essentielle, mue par des facteurs irrationnels, et que ces facteurs irrationnels, il faut essayer de les comprendre et de manifester à leur égard. J'appellerai pas ça de la tolérance, parce que la tolérance implique une certaine attitude de supériorité qui ne serait pas du tout de mise en l'occurrence, mais disons avoir une certaine humilité ou docilité.
Vous m'avez dit que dans votre jeunesse, vous vous intéressiez à la politique et vous étiez militant. Vous avez même ajouté, j'étais socialiste. Vous avez les mêmes options politiques aujourd'hui ? Vous êtes encore socialiste ou vous n'appartenez à aucun parti et vous ne plaidez pour aucune cause ?
Je n'ai plus aucune option politique, je dirais, depuis fort longtemps. En réalité, j'étais militant politique très actif quand je suis parti pour le Brésil en 1935, et avec le sentiment qui peut paraître aujourd'hui démodé à certains que quand on est envoyé par son pays dans un pays étranger, on doit soigneusement se tenir à l'écart de la vie politique du pays d'accueil et donc qu'on ne doit avoir vis-à-vis de lui aucune position politique. Je me suis, par la force des choses, détaché de la politique. Ensuite, j'ai vécu aux États-Unis et le même raisonnement pouvait valoir. Et enfin, la pratique de l'ethnologie a fait que je me suis habitué à regarder les problèmes des sociétés humaines, disons à très grande échelle, au lieu de le faire à très courte échelle. Et que donc les conflits ou les différences politiques qui peuvent nous paraître essentielles dans la perspective étroite qui est celle où nous sommes, eh bien, on en a beaucoup moins quand on regarde les phénomènes humains dans la perspective où se placent les ethnologues. Et puis, enfin, et je dirais surtout, j'ai le sentiment que, de la part de quelqu'un qui a pu s'acquérir par des travaux spécialisés une certaine, disons, notoriété, due au fait qu'il étudie très sérieusement ses dossiers avant de rien dire et qu'on lui fait justement crédit d'avoir étudié très sérieusement ses dossiers, eh bien, il y aurait une sorte d'imposture à laisser croire que parce que peut-être il est arrivé à mieux comprendre certains phénomènes sur lesquels il a beaucoup travaillé, son opinion a une valeur générale sur n'importe quel phénomène. Bon, j'ai le sentiment que si dans le domaine qui est le mien, j'ai dit ou écrit des choses qui méritent l'attention, sinon d'être accepté par tout le monde, mais en tout cas d'être considéré attentivement, eh bien dans le domaine politique, toute l'expérience, toutes les expériences que j'ai faites au cours de ma vie, où je me suis toujours trompé, je le répète, bien font que mon opinion politique n'est absolument pas plus de valeur que celle je ne veux pas du tout en parler avec des dames, mais disons de la femme de ménage, ou pour reprendre un mot de Stendhal, que de l'épicier du coin. Et donc, ça aussi m'impose une grande discrétion.
Claude Lévi-Strauss, nous avons achevé notre troisième heure. Demain, nous parlerons musique. Nous dirons quelle est votre passion et je crois que nous écouterons également des airs et vous avez une forme d'amour pour la voix humaine. Enfin, vous me le direz demain.
Oui, eh bien, en tout cas, j'aimerais mieux écouter de la musique que m'entendre parler.
À demain, Claude Lévi-Strauss.